le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à tous. L'étau se resserre autour de la Corée du Nord. Le pays sera bientôt privé d'un tiers de ses recettes d'exportation. Sanction votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU hier. Quelles conséquences, quelle réaction possible du régime le plus fermé au monde? Nous irons à Séoul rejoindre notre correspondant en Corée du Sud. Au Venezuela, la nouvelle assemblée constituante à peine installée s'en prend déjà à l'opposition. La procureure générale Luisa Ortega a été limogée hier, une chaviste historique qui avait dénoncé des fraudes électorales. Nous ferons le point sur la situation sociale dans le pays avec Julien Gonzalez. L'actualité en France, c'est ce chiffre éloquent. 12 000 personnes vivent dans la rue à Marseille. Le gouvernement promet plus d'argent pour l'hébergement d'urgence, mais pour les associations, le compte n'y est pas. Ils ont donc dit oui. Tous les cinq, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et même la Chine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier à l'unanimité pour de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Pyongyang paie ainsi ses deux essais de tirs missiles réalisés le mois dernier en direction des États-Unis. Le pays va devoir se priver d'€1 milliard de revenus d'exportation, soit un tiers de ses recettes extérieures. Quelles conséquences pour l'un des pays les plus reclus au monde? Élément de réponse de notre correspondant à Séoul, Louis Paligiano.
La série de sanctions la plus contraignante jamais appliquée à un pays en une génération, c'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley après l'adoption de la résolution 2371 hier à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce texte vise à priver la Corée du Nord d'€1 milliard de revenus liés principalement à ses exportations. Des secteurs essentiels sont concernés par cet embargo, notamment ceux du charbon, du fer et de la pêche. L'enjeu est d'empêcher le régime de Kim Jong-un de détourner ses ressources afin de financer ses programmes nucléaires et balistiques, sans pour autant aggraver l'affliction du peuple nord-coréen en proie à un rationnement de plus en plus sévère. Il est cependant difficile d'envisager un changement de cap de Pyongyang, qui a toujours consacré une part colossale de son budget au développement de son armement, au mépris des souffrances de sa population. De plus, le royaume ermite excelle désormais dans le contournement des mesures coercitives à son encontre. Il devrait donc continuer à chercher des moyens de faire subsister et d'élargir son économie parallèle afin de poursuivre aveuglément son ambition de devenir une puissance nucléaire.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro porte un nouveau coup très dur à l'opposition. L'Assemblée constituante, qu'il a fait élire il y a une semaine, a limogé hier l'une de ses adversaires les plus coriaces, la procureure générale Luisa Ortega. C'est elle qui avait demandé vendredi à la justice de suspendre l'installation de la constituante. Luisa Ortega avait dénoncé des fraudes pesant sur le scrutin. Les précisions à Caracas du correspondant de RFI au Venezuela, Julien Gonzalez, pour France Culture.
C'est l'image forte de ce samedi, moins de 4 heures après l'annonce de la destitution de Luisa Ortega Díaz par la constituante, le ministère public dispose déjà de son nouveau procureur général de la République. C'est en effet aux alentours de 16 heures locales que Tarek William Saab, jusque-là défenseur du peuple, sorte de médiateur en charge de la défense des droits de l'homme, a prêté serment devant les membres de la constituante. Régulièrement la cible des critiques de l'opposition, le nouveau procureur s'en est pris directement dans son discours d'investiture à celle qui l'a précédé, la tenant pour responsable des nombreuses victime de la crise de ces derniers mois. L'intéressé, Luisa Ortega Díaz, n'a pas tardé à réagir. Face à ce qu'elle qualifie d'attaque contre la Constitution, elle a assuré qu'elle ne se rendrait pas. Quant à l'opposition, fidèle soutien de Luisa Ortega Díaz depuis le début de la crise, elle a fustigé cette décision, la qualifiant, je cite, de signe d'une dictature vaincue à qui ne reste que la peur pour exercer le pouvoir. Mais les décisions de la nouvelle constituante ne s'arrêtent pas à l'ex-procureur général de la République. Les élus ont également approuvé un décret d'urgence et de restructuration du ministère public, augurant de possibles limogeages à venir de certains fonctionnaires de cette institution.
Un an, jour pour jour, après l'ouverture des Jeux Olympiques, Rio de Janeiro ressemblait hier à une zone de guerre. Plusieurs milliers de militaires et policiers ont mené une opération contre des gangs dans plusieurs favelas de la ville. Deux criminels sont morts et 14 et 17 kilos de drogue ont été saisis, ainsi que des armes. Dernier jour de campagne au Kenya. Les électeurs ont jusqu'à mardi pour faire leur choix entre le président sortant Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga. Odinga a rattrapé son retard dans les sondages et croit aujourd'hui en ses chances de victoire. Il a organisé hier un gigantesque meeting dans un parc de la capitale kényane Nairobi. Bruno Meyerfel, notre correspondant, était dans la foule.
Papa président, we are going to Canada.
Papa président Odinga va nous guider vers la terre promise sous un beau soleil. Ils étaient des milliers à applaudir leur leader Raila Odinga, mais aussi comme Adwina Gichanzu a critiqué durement le bilan du président sortant Uhuru Kenyatta.
Dans ce pays, on n'a pas d'hôpital qui fonctionne, pas de bon système d'éducation et même des pénuries de nourriture comme le sucre ou la farine. Aujourd'hui, le Kenya est encore un pays pauvre.
Dans la foule, le ton monte quand on évoque la tribu Kikuyu, celle du président, la plus nombreuse du pays, celle qui a produit 3 des 4 chefs de l'État depuis l'indépendance. Aragostine trouve que leur domination a assez duré.
Depuis 50 ans et l'indépendance, ils gardent le pouvoir pour eux tout seuls. Ils ne veulent pas que les autres tribus dirigent aussi le Kenya. Mais tout le monde devrait avoir le droit de gouverner dans ce pays. Le pouvoir n'est pas uniquement pour les Kikuyu.
Alors Odinga est un vieux routier de la politique kenyane. À 72 ans, c'est sa 4e campagne présidentielle. Mais pour Victorina, pas de doute, ce sera la bonne.
À chaque fois qu'Odinga a perdu, c'est parce que les élections avaient été truquées. Odinga a gagné toutes les élections auxquelles il a participé. Mais cette fois, on n'est pas prêt à regarder ailleurs s'il bourre les urnes.
Victorina et les autres le disent, ils accepteront sans problème les résultats des élections si celles-ci sont transparentes et crédibles. Sinon, pas le choix, ce sera la rue et peut-être les violences.
Un reportage de Bruno Meyerfeld à Nairobi, au Kenya. En Syrie, l'armée s'est emparée hier du dernier bastion du groupe État islamique dans la province de Homs, la grande ville du centre du pays. C'est ce qu'affirme en tout cas l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une avancée qui permet au régime de Bachar el-Assad d'avancer vers l'est, vers la zone d'où il espère chasser les djihadistes. Mais cette victoire s'est faite au prix d'intenses combats d'artillerie et de bombardements de l'armée russe, l'alliée de Damas. En France, le gouvernement va débloquer 200 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence des sans-abri. Les associations avaient dénoncé l'inaction des pouvoirs publics il y a quelques jours. Le nombre d'appels au 115 est en forte augmentation cet été, plus 30% dans les Bouches-du-Rhône, l'un des départements les plus touchés. Et ce n'est pas l'enveloppe annoncée qui semble rassurer le SAMU social. Reportage à Marseille d'Isabelle Dore.
À Marseille, les chiffres sont éloquents. Plus de 12 000 personnes à la rue et moins de 800 places dans les centres d'accueil. Et les demandes, les appels au secours, augmentent d'année en année. Alors ces 200 millions d'euros que le gouvernement va allouer pour l'hébergement d'urgence ne va pas résoudre le problème, estime Fatih Boiroy, le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre.
C'est un emplâtre sur nos jambes de bois. Le problème de l'argent, c'est que cet argent ne doit pas servir uniquement à payer des nuits d'hôtel, mais à faire des investissements pour l'avenir. Il faut également changer le système, parce que c'est pas que de l'argent qu'il nous faut, c'est faire en sorte de tarir les sources de mise à la rue des gens. Et tant que nous mettrons des gens à la rue, nous aurons toujours plus de besoins. Nous demandons un moratoire sur les expulsions, et en particulier les expulsions de familles, et des réquisitions sur des immeubles publics ou de grandes sociétés, pour pouvoir répondre en urgence à ce moment-là, aux besoins des familles sans avoir à payer des hôtels qui sont quelquefois indignes.
Outre les logements, Marseille manque de points d'eau potable, une catastrophe avec la canicule qui sévit, et manque également de toilettes publiques, moins d'une quinzaine dans une ville 2,5 fois plus étendue que Paris.
Un reportage d'Isabelle Dore à Marseille. Qui a dit que le métier d'astronome était réservé aux hommes? Sûrement pas les organisateurs du festival de Florence dans le Gers. Pour sa 27e édition, ce festival d'astronomie a décidé de faire une large place aux femmes et à la jeunesse. La marraine est Pauline Zarouk, une astrophysicienne, doctorante en cosmologie et membre du conseil d'administration de la Société française de physique. Une femme savante et passionnante qu'a rencontrée Stéphanie Iglesias.
Le festival de Florence a 27 ans et sa marraine quasiment son âge à un an près. Si l'univers est en expansion, il lui faut du carburant, d'où l'hypothèse scientifique que cet univers soit constitué à 70% d'énergie noire qui serait invisible mais bien présente. L'univers est en expansion, c'est une découverte qui n'est déjà plus toute jeune. Pauline Zarouk.
Ça a été une découverte dans les années 1930, d'abord de l'expansion de l'univers par Hubble. Et en fait, on peut le voir comme des galaxies. Quand on regarde les galaxies autour de nous, on voit, on observe, on peut calculer qu'elles s'éloignent de nous. D'où cette conclusion que l'univers est en expansion, les tailles dans l'univers grandissent au fur et à mesure que le temps avance. Et on a même découvert l'accélération de l'expansion de l'univers à la fin des années 90.
Le plus compliqué, c'est de savoir qui appuie sur l'accélérateur, Pauline Zarouk, astrophysicienne.
Une des possibilités serait de donc modifier les équations de la relativité générale, de rajouter par exemple des dimensions supplémentaires. On sait qu'on habite dans un espace-temps, quatre dimensions, trois dimensions d'espace, une dimension pour le temps. Peut-être qu'en rajoutant une dimension d'espace, on pourrait expliquer théoriquement et à vérifier observationnellement cette accélération.
Cette jeune chercheuse va aussi rencontrer cette semaine Hubert Reeves, qui grâce à ses livres l'a en quelque sorte envoyé vers la Voie lactée pour en faire une nouvelle étoile.
On termine par quelques mots de météo et le sud de la France qui devrait commencer à respirer aujourd'hui. Fin de l'épisode de canicule normalement ce matin. Globalement, c'est un soleil généreux qui dominera dans le ciel. Côté thermomètre, il fera 18 degrés à Cherbourg, 22 à Lille, 24 à Paris et Strasbourg, 28 à Lyon et jusqu'à 33 degrés à Nîmes. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux, réalisé par Myriam Guillot. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 12h30 avec Hélène Malka.